Chapitre 2. Ferragus. Une bien belle chose est le métier d'espion, quand on le fait pour son compte et au profit d'une passion. N'est-ce pas se donner les plaisirs du voleur en restant honnête homme? Mais il faut se résigner à bouillir de colère, à rugir d'impatience, à se glacer les pieds dans la boue, à transir et brûler, à dévorer de fausses espérances. Il faut aller, sur la foi d'une indication, vers un but ignoré, manquer son coup, pester, s'improviser à soi-même des élégies, des dithyrambes, s'exclamer niaisement devant un passant inoffensif qui vous admire, puis renverser des bonnes femmes et leurs paniers de pommes, courir, se reposer, rester devant une croisée, faire mille suppositions. Mais c'est la chasse dans Paris, la chasse avec tous ses accidents, moins les chiens, le fusil et le taillot. Il n'est de comparable à ces scènes que celles de la vie des joueurs. Puis besoin est d'un cœur gros d'amour ou de vengeance pour s'embusquer dans Paris, comme un tigre qui veut sauter sur sa proie, et pour jouir alors de tous les accidents de Paris et d'un quartier, en leur prêtant un intérêt de plus que celui dont ils abondent déjà. Alors, ne faut-il pas avoir une âme multiple? N'est-ce pas vivre de mille passions, de mille sentiments ensemble? Auguste de Maulincourt se jeta dans cette ardente existence avec amour, parce qu'il en ressentit tous les malheurs et tous les plaisirs. Il allait déguiser, dans Paris, veillait à tous les coins de la rue Pagevin ou de la rue des Vieux Augustins. Il courait comme un chasseur, de la rue de Ménard à la rue Soly, de la rue Soly à la rue de Ménard, sans connaître ni la vengeance ni le prix dont seraient ou punis ou récompensés tant de soins, de démarches et de ruses. Et cependant, il n'en était pas encore arrivé à cette impatience qui tord les entrailles et fait suer. Il flânait avec espoir, en pensant que Madame Jules ne se hasarderait pas, pendant les premiers jours, à retourner là où elle avait été surprise. Aussi avait-il consacré ses premiers jours à s'initier à tous les secrets de la rue. Novice en ce métier, il n'osait questionner ni le portier ni le cordonnier de la maison dans laquelle venait Madame Jules. Mais il espérait pouvoir se créer un observatoire dans la maison située en face de l'appartement mystérieux. Il étudiait le terrain. Il voulait concilier la prudence et l'impatience, son amour et le secret. Dans les premiers jours du mois de mars, au milieu des plans qu'il méditait pour frapper un grand coup, et en quittant son échiquier après une de ses factions assidues qui ne lui avait encore rien appris, il s'en retournait vers 4 heures à son hôtel où l'appelait une affaire relative à son service, lorsqu'il fut pris rue Coquillère par une de ces belles pluies qui grossissent tout à coup les ruisseaux et dont chaque goutte fait cloche en tombant sur les flaques d'eau de la voie publique. Un fantassin de Paris est alors obligé de s'arrêter tout court, de se réfugier dans une boutique ou dans un café, s'il est assez riche pour y payer son hospitalité forcée, ou, selon l'urgence, sous une porte cochère, asile des gens pauvres ou mal mis. Comment aucun de nos peintres n'a-t-il pas encore essayé de reproduire la physionomie d'un essaim de Parisiens groupés, par un temps d'orage, sous le porche humide d'une maison? Ou rencontrer un plus riche tableau? N'y a-t-il pas d'abord de piétons rêveurs ou philosophes qui observent avec plaisir, soit les raies faites par la pluie sur le fond grisâtre de l'atmosphère, espèce de ciselure semblable aux objets capricieux des filets de verre, soit les tourbillons d'une eau blanche, que le vent roule en poussière lumineuse sur les toits, soit les capricieux dégorgements des tuyaux pétillants, écumeux, enfin mille autres riens admirables, étudiés avec délices par les flâneurs, malgré les coups de balai dont les régale le maître de la loge. Puis il y a le piéton causeur qui se plaint et converse avec la portière, quand elle se pose sur son balai comme un grenadier sur son fusil. Le piéton indigent, fantastiquement collé sur le mur, sans nul souci de ses haillons habitués au contact des rues. Le piéton savant qui étudie, qui épelle ou lit les affiches sans les achever. Le piéton rieur qui se moque des gens auxquels il arrive malheur dans la rue, qui rit des femmes crottées et fait des mines à ceux ou celles qui sont aux fenêtres. Le piéton silencieux qui regarde à toutes les croisées, à tous les étages. Le piéton industriel, armé d'une sacoche ou muni d'un paquet, traduisant la pluie par profits et pertes. Le piéton aimable, qui arrive comme un obus en disant « Ah, quel temps, messieurs !» et qui salue tout le monde. Enfin, le vrai bourgeois de Paris, homme à parapluie, experte en averse, qui l'a prévu, sorti malgré l'avis de sa femme, et qui s'est assis sur la chaise du portier. Selon son caractère, chaque membre de cette société fortuite contemple le ciel, s'en va sautillant pour ne pas se crotter, ou parce qu'il est pressé, ou parce qu'il voit les citoyens marchant malgré vent et marée, ou parce que la cour de la maison étant humide et catarralement mortelle, la lisière, dit un proverbe, est pire que le drap. Chacun a ses motifs. Il ne reste que le piéton prudent, l'homme qui, pour se remettre en route, épie quelques espaces bleus à travers les nuages crevassés. Monsieur de Maulincourt se réfugia donc, avec toute une famille de piétons, sous le porche d'une vieille maison, dont la cour ressemblait à un grand tuyau de cheminée. Il y avait, le long de ces murs plâtreux, salpêtrés et verdâtres, tant de plombs et de conduits, et tant d'étages dans les quatre corps de logis, que vous eussiez dit les cascatelles de Saint-Cloud. L'eau ruisselait de toutes parts. Elle bouillonnait. Elle sautillait, murmurait. Elle était noire, blanche, bleue, verte. Elle criait. Elle foisonnait sous le balai de la portière. Vieille femme édentée, faite aux orages, qui semblait les bénir et qui poussait dans la rue mille débris, dont l'inventaire curieux révélait la vie et les habitudes de chaque locataire de la maison. C'étaient des découpures d'indiennes, des feuilles de thé, des pétales de fleurs artificielles, décolorées, manquées, des épluchures de légumes, des papiers, des fragments de métal. À chaque coup de balai, la vieille femme mettait à nu l'âme du ruisseau, cette fente noire, découpée en cases de damier, après laquelle s'acharnent les portiers. Le pauvre amant examinait ce tableau, l'un des milliers que le mouvant Paris offre chaque jour. Mais il l'examinait machinalement, en homme absorbé par ses pensées, lorsqu'en levant les yeux, il se trouva nez à nez avec un homme qui venait d'entrer. C'était, en apparence du moins, un mendiant, mais non pas le mendiant de Paris, création sans nom dans les langages humains. Non, cet homme formait un type nouveau, frappé en dehors de toutes les idées réveillées par le mot de mendiant. L'inconnu ne se distinguait point par ce caractère originalement parisien, qui nous saisit assez souvent dans les malheureux que Charlotte a représentés parfois, avec un rare bonheur d'observation. Ces deux grossières figures roulées dans la boue, à la voix rauque, au nez rougi et bulbeux, à bouche dépourvue de dents, quoique menaçante, humbles et terribles, chez lesquels l'intelligence profonde qui brille dans les yeux semble être un contresens. Quelques-uns de ces vagabonds effrontés ont le teint marbré, gercé, veiné, le front couvert de rugosité, les cheveux rares et sales, comme ceux d'une perruque jetée au coin d'une borne. Tous gais dans leur dégradation et dégradés dans leur joie, tous marqués du sceau de la débauche, jettent leur silence comme un reproche. Leur attitude révèle d'effrayantes pensées. Placés entre le crime et l'aumône, ils n'ont plus de remords, et tournent prudemment autour de l'échafaud sans y tomber, innocents au milieu du vice, et vicieux au milieu de leur innocence. Ils font souvent sourire, mais font toujours penser. L'un vous représente la civilisation rabougrie, il comprend tout, l'honneur du bagne, la patrie, la vertu, puis c'est l'analyse du crime vulgaire, et les finesses d'un forfait élégant. L'autre est résigné, mime profond, mais stupides. Tous ont des velléités d'ordre et de travail. Mais ils sont repoussés dans leur fange par une société qui ne veut pas s'enquérir de ce qu'il peut y avoir de poètes, de grands hommes, de gens intrépides et d'organisations magnifiques parmi les mendiants, ces bohémiens de Paris. Peuple souverainement bon et souverainement méchant, comme toutes les masses qui ont souffert, habitués à supporter des maux inouïs et qu'une fatale puissance maintient toujours au niveau de la boue. Ils ont tous un rêve, une espérance, un bonheur, le jeu, la loterie ou le vin. Il n'y avait rien de cette vie étrange dans le personnage collé fort insouciamment sur le mur, devant Monsieur de Maulincour, comme une fantaisie dessinée par un habile artiste derrière quelques toiles retournées de son atelier. Cet homme long et sec, dont le visage plombé trahissait une pensée profonde et glaciale, séchait la pitié dans les cœurs des curieux, par une attitude pleine d'ironie et par un regard noir, qui annonçait sa prétention de traiter d'égal à égal avec eux. Sa figure était d'un blanc sale, et son crâne ridé dégarni de cheveux avait une vague ressemblance avec un quartier de granit. Quelques mèches plates et grises, placées de chaque côté de sa tête, descendaient sur le collet de son habit crasseux et boutonné jusqu'au cou. Il ressemblait tout à la fois à Voltaire et à Don Quichotte. Il était railleur et mélancolique, plein de philosophie mais à demi aliéné. Il paraissait ne pas avoir de chemise. Sa barbe était longue. Sa méchante cravate noire toute usée, déchirée, laissait voir un cou protubérant, fortement sillonné, composé de veines grosses comme des cordes. Un large cercle brun, meurtri, se dessinait sous chacun de ses yeux. Il semblait avoir au moins 60 ans. Ses mains étaient blanches et propres. Il portait des bottes éculées et percées. Son pantalon bleu, raccommodé en plusieurs endroits, était blanchi par une espèce de duvet qui le rendait ignoble à voir. Soit que ses vêtements mouillés exhalassent une odeur fétide, soit qu'il eût à l'état normal cette senteur de misère qu'ont les taudis parisiens, de même que les bureaux, les sacristies et les hospices sont la leur, goût fétide et rance, dont rien ne saurait donner l'idée. Les voisins de cet homme quittèrent leur place et le laissèrent seul. Il jeta sur eux, puis reporta sur l'officier son regard calme et sans expression, le regard si célèbre de Monsieur de Talleyrand, coup d'œil terne et sans chaleur, espèce de voile impénétrable sous lequel une âme forte cache de profondes émotions et les plus exacts calculs sur les hommes, les choses et les événements. Aucun pli de son visage ne se creusa. Sa bouche et son front furent impassibles, mais ses yeux s'abaissèrent par un mouvement d'une lenteur noble et presque tragique. Il y eut enfin tout un drame dans le mouvement de ses paupières flétries. L'aspect de cette figure stoïque fit naître chez M. de Maulincourt l'une de ces rêveries vagabondes qui commencent par une interrogation vulgaire et finissent par comprendre tout un monde de pensées. L'orage était passé. M. de Maulincourt n'aperçut plus de cet homme que le pan de sa redingote qui frôlait la borne. Mais en quittant sa place pour s'en aller, il trouva sous ses pieds une lettre qui venait de tomber, et devina qu'elle appartenait à l'inconnu, en lui voyant remettre dans sa poche un foulard dont il venait de se servir. L'officier prit la lettre pour la lui rendre, et lut involontairement l'adresse. « À Monsieur Ferragusse, rue des Grands Augustins, au coin de la rue Soly, Paris. » La lettre ne portait aucun timbre, et l'indication empêcha M. de Maulincourt de la restituer, car il y a peu de passions qui ne deviennent improbes à la longue. Le baron eut un pressentiment de l'opportunité de cette trouvaille, et voulut, en gardant la lettre, se donner le droit d'entrer dans la maison mystérieuse pour y venir la rendre à cet homme, ne doutant pas qu'il ne demeurât dans la maison suspecte. Déjà des soupçons, vagues comme les premières lueurs du jour, lui faisaient établir des rapports entre cet homme et Madame Jules. Les amants jaloux supposent tout, et c'est en supposant tout, en choisissant les conjectures les plus probables que les juges, les amants et les observateurs devinent la vérité qui les intéresse. Est-ce à lui la lettre? Est-elle de Madame Jules? 1000 questions ensemble lui furent jetées par son imagination inquiète. Mais aux premiers mots, il sourit. Voici textuellement, dans la splendeur de sa phrase naïve, dans son orthographe ignoble, cette lettre, à laquelle il était impossible de rien ajouter, dont il ne fallait rien retrancher, si ce n'est la lettre elle-même, mais qu'il a été nécessaire de ponctuer en la donnant. Il n'existe dans l'original ni virgule, ni repose indiqué, ni même de point d'exclamation. Fait qui tiendrait à détruire le système des points par lesquels les auteurs modernes ont essayé de peindre les grands désastres de toutes les passions. Henri, dans le nombre des sacrifices que je m'étais imposé à votre égard, se trouvoit celui de ne plus vous donner de mes nouvelles. Mais une voix irrésistible m'ordonne de vous faire connaître vos crimes envers moi. Je sais d'avance que votre âme endurcie dans le vice ne daignera pas me plaindre. Votre cœur est sourd à la sensibilité. Ne l'est-il pas au cri de la nature? Mais peu importe. Je dois vous apprendre jusqu'à quel point vous vous êtes rendu coupable et l'horreur de la position où vous m'avez mis. Henri, vous saviez tout ce que j'ai souffert de la première faute et vous avez pu me plonger dans le même malheur et m'abandonner à mon désespoir et à ma douleur. Oui, je l'avoue, la croyance que j'avoue d'être aimé et d'être estimé de vous m'avoit donné le courage de supporter mon sort. Mais aujourd'hui, que me reste-t-il? Ne m'avez-vous pas fait perdre tout ce que j'avois de plus cher? Tout ce qui m'attachait à la vie? Parents, amis, honneur, réputation? Je vous ai tout sacrifié. Et il ne me reste que l'opprobre, la honte, et je le dis sans rougir, la misère. Il ne manquait à mon malheur que la certitude de votre mépris et de votre haine. Maintenant que je l'ai, j'aurai le courage que mon projet exige. Mon parti est pris et l'honneur de ma famille le commande. Je vais donc mettre un terme à mes souffrances. Ne faites aucune réflexion sur mon projet, Henri. Il est affreux, je le sais. Mais mon état m'y force. Sans secours, sans soutien, sans un ami pour me consoler. Puis-je vivre? Non. Le sort en a décidé. Ainsi, dans 2 jours, Henri, dans 2 jours, Ida ne sera plus digne de votre estime. Mais recevez le serment que je vous fais d'avoir ma conscience tranquille, puisque je n'ai jamais cessé d'être digne de votre amitié. Ô Henri, mon ami, car je ne changerai jamais pour vous, promettez-moi que vous me pardonnerez la carrière que je vais embrasser. Mon amour m'a donné du courage. Il me soutiendra dans la vertu. Mon cœur, d'ailleurs plein de ton image, sera pour moi un préservatif contre la séduction. N'oubliez jamais que mon sort est votre ouvrage. Et jugez-vous. Puisse le ciel ne pas vous punir de vos crimes, c'est à genoux que je lui demande votre pardon, car je le sens. Il ne manquerait plus à mes mots que la douleur de vous savoir malheureux. Malgré le dénouement où je me trouve, je refuserais toute espèce de secours de vous. Si vous m'aviez aimé, j'aurais pu les recevoir comme venant de l'amitié. Mais un bienfait excité par la pitié Mon âme le repousse et je serai plus lâche en le recevant que celui qui me le proposerait. J'ai une grâce à vous demander. Je ne sais pas le temps que je dois rester chez Madame Ménardi. Soyez assez généreux d'éviter d'y paroître devant moi. Vos deux dernières visites m'ont fait un mal dont je me ressentirai longtemps. Je ne veux point entrer dans les détails sur votre conduite à ce sujet. Vous me haïssez. Ce mot est gravé dans mon cœur et l'a glacé d'effroi. Hélas, c'est au moment où j'ai besoin de tout mon courage que toutes mes facultés m'abandonnent. Henri, mon ami, avant que j'aie mis une barrière entre nous, donne-moi une dernière preuve de ton estime. Écris-moi, réponds-moi, dis-moi que tu m'estimes encore, quoique ne m'aimant plus. Malgré que mes yeux soient toujours dignes de rencontrer les vôtres, je ne sollicite pas d'entrevue. Je crains tout de ma faiblesse et de mon amour. Mais de grâce, écrivez-moi un mot de suite. Il me donnera le courage dont j'ai besoin pour supporter mes adversités. Adieu, l'auteur de tous mes maux. Mais le seul ami que mon cœur ait choisi et qu'il n'oubliera jamais. Signé Ida. Cette jeune fille dont l'amour trompé, les joies funestes, les douleurs, la misère et l'épouvantable résignation ont été résumées en si peu de mots. Ce poème inconnu, mais essentiellement parisien, écrit dans cette lettre sale, agir pendant un moment sur Monsieur de Maulincourt, qui finit par se demander si cette Ida ne serait pas une parente de Madame Jules, et si le rendez-vous du soir, duquel il avait été fortuitement témoin, n'était pas nécessité par quelque tentative charitable. Que le vieux pauvre eût séduit Ida, cette séduction tenait du prodige. En se jouant dans le labyrinthe de ces réflexions qui se croisaient et se détruisaient l'une par l'autre, le baron arriva près de la rue Pagevin, et vit un fiacre arrêté dans le bout de la rue des Vieux Augustins qui avoisine la rue Montmartre. Tous les fiacres stationnés lui disaient quelque chose. « Y serait-elle » pensa-t-il, et son cœur battait par un mouvement chaud et fiévreux. Il poussa la petite porte à grelot, mais en baissant la tête et en obéissant à une sorte de honte, car il entendait une voix secrète qui lui disait « Pourquoi mets-tu le pied dans ce mystère ?» Il monta quelques marches et se trouva des années avec la vieille portière. « Monsieur Ferragus. »«
Connais pas. »«
Comment ? Monsieur Ferragus ne demeure pas ici ? Nous n'avons pas ça dans la maison. » « Mais, ma bonne femme, je ne suis pas une bonne femme, monsieur, je suis concierge. »« Mais, madame, reprit le baron, j'ai une lettre à remettre à monsieur Ferragus. »«
Ah, si monsieur a une lettre, dit-elle en changeant de ton,
la chose est bien différente. Voulez-vous la faire voir, votre lettre ?» Auguste montra la lettre pliée. La vieille hocha la tête d'un air de doute, hésita, sembla vouloir quitter sa loge pour aller instruire le mystérieux Ferragus de cet incident imprévu. Puis elle dit, « Eh bien, montez, monsieur, vous devez savoir où c'est !» Sans répondre à cette phrase, par laquelle cette vieille rusée pouvait lui tendre un piège, l'officier grimpa lestement les escaliers, et sa navire monta à la porte du second étage. Son instinct d'amant lui disait, « Elle est là !» L'inconnu du porche, le Ferragus, ou l'auteur des mots d'Ida, ouvrit lui-même. Il se montra vêtu d'une robe de chambre à fleurs, d'un pantalon de molleton blanc, les pieds chaussés dans de jolies pantoufles en tapisserie, et la tête débarbouillée. Madame Jules, dont la tête dépassait le chambranle de la porte de la seconde pièce, pâlit et tomba sur sa chaise. « Qu'avez-vous, madame ? » s'écria l'officier en s'élançant vers elle. Mais Ferragus étendit le bras et rejeta vivement l'officieuse en arrière, par un mouvement si sec qu'Auguste crut avoir reçu dans la poitrine un coup de barre de fer. « Arrière, monsieur, dit cet homme, que nous voulez-vous ? Vous rôdez dans le quartier depuis 5 à 6 jours. Seriez-vous un espion ?
Êtes-vous monsieur Ferragus ? Dit le baron.
« Non, monsieur. » Néanmoins, reprit Auguste, « je dois vous remettre ce papier que vous avez perdu sous la porte de la maison où nous étions tous deux pendant la pluie. » En parlant et entendant la lettre à cet homme, le baron ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil sur la pièce où le recevait Ferragus. Il la trouva fort bien décorée, quoique simplement. Il y avait du feu dans la cheminée. Tout auprès était une table servie plus somptueusement que ne comportait l'apparente situation de cet homme et la médiocrité de son loyer. Enfin, sur une causeuse de la seconde pièce, qu'il lui fut possible de voir, il aperçut un tas d'or, et entendit un bruit qui ne pouvait être produit que par les pleurs d'une femme. « Ce papier m'appartient, je vous remercie, » dit l'inconnu en se tournant de manière à faire comprendre au baron qu'il désirait le renvoyer aussitôt. Trop curieux pour faire attention à l'examen profond dont il était l'objet, Auguste ne vit pas les regards admi-magnétiques par lesquels l'inconnu semblait vouloir le dévorer. Mais s'il eût rencontré cet œil de basilic, il aurait compris le danger de sa position.
Trop passionné pour penser à lui-même, Auguste salua, descendit et retourna chez lui, en essayant de trouver un sens dans la réunion de ces trois personnes, Ida, Ferragus et Madame Jules. Occupation qui, moralement, équivalait à chercher l'arrangement des morceaux de bois biscornus du casse-tête chinois, sans avoir la clé du jeu. Mais Madame Jules l'avait vu. Madame Jules venait là. Madame Jules lui avait menti. Maulincourt se proposa d'aller rendre visite à cette femme le lendemain. Elle ne pouvait pas refuser de le voir. Il s'était fait son complice. Il avait les pieds et les mains dans cette ténébreuse intrigue. Il tranchait déjà du sultan, et pensait à demander impérieusement à Madame Jules de lui révéler tous ses secrets. En ce temps-là, Paris avait la fièvre des constructions. Si Paris est un monstre, il est assurément le plus maniaque des monstres. Il s'éprend de mille fantaisies. Tantôt il bâtit comme un grand seigneur qui aime la truelle, puis il laisse sa truelle et devient militaire. Il s'habille de la tête aux pieds en garde nationale, fait l'exercice et fume. Tout à coup, il abandonne les répétitions militaires et jette son cigare. Puis il se désole, fait faillite, vend ses meubles sur la place du Châtelet, dépose son bilan. Mais quelques jours après, il arrange ses affaires, se met en fête et danse. Un jour, il mange du sucre d'orge à pleine main, à pleine lèvre. Hier, il achetait du papier vénin. Aujourd'hui, le monstre a mal aux dents et s'applique un alexis pharmaque sur toutes ses murailles. Demain, il fera ses provisions de pâte pectorale. Il a ses manies pour le mois, pour la saison, pour l'année, comme ses manies d'un jour. En ce moment, donc, tout le monde bâtissait et démolissait quelque chose. On ne sait quoi encore. Il y avait très peu de rues qui ne vissent l'échafaudage à longue perche, garnies de planches mises sur des traverses et fixées d'étage en étage dans des boulins. Construction frêle, ébranlée par les limousins, mais assujettie par des cordages, toute blanche de plâtre, rarement garantie des atteintes d'une voiture par ce mur de planches, enceinte obligée des monuments qu'on ne bâtit pas. Il y a quelque chose de maritime dans ces mâts, dans ces échelles, dans ces cordages, dans les cris des maçons. Or, à 12 pas de l'hôtel Maulincourt, un de ces bâtiments éphémères était élevé devant une maison que l'on construisait en pierre de taille. Le lendemain, au moment où le baron de Maulincourt passait en cabriolet devant cet échafaud, en allant chez Madame Jules, une pierre de 2 pieds carrés, arrivée au sommet des perches, s'échappa de ses liens de corde en tournant sur elle-même et tomba sur le domestique qu'elle écrasa derrière le cabriolet. Un cri d'épouvante fit trembler l'échafaudage et les maçons. L'un d'eux, en danger de mort, se tenait avec peine aux longues perches et paraissait avoir été touché par la pierre. La foule s'amassa promptement. Tous les maçons descendirent, criant, jurant et disant que le cabriolet de M. de Maulincourt avait causé un ébranlement à leur grue. 2 pouces de plus, et l'officier avait la tête coiffée par la pierre. Le valet était mort, la voiture était brisée. Ce fut un événement pour le quartier. Les journaux le rapportèrent. M. de Maulincourt, sûr de n'avoir rien touché, se plaignit. La justice intervint. Enquête faite, il fut prouvé qu'un petit garçon, armé d'une latte, montait la garde et criait aux passants de s'éloigner. L'affaire en resta là. M. de Maulincourt en fut pour son domestique, pour sa terreur, et resta dans son lit pendant quelques jours, car l'arrière-train du cabriolet en se brisant lui avait fait des contusions. Puis, la secousse nerveuse causée par la surprise lui donna la fièvre. Il n'alla pas chez Madame Jules. 10 jours après cet événement, et à sa première sortie, il se rendait au bois de Boulogne dans son cabriolet restauré. Lorsqu'en descendant la rue de Bourgogne, à l'endroit où se trouve l'égout, en face la chambre des députés, l'essieu se cassa net par le milieu. Et le baron allait si rapidement que cette cassure eut pour effet de faire tendre les deux roues à se rejoindre assez violemment pour lui fracasser la tête. Mais il fut préservé de ce danger par la résistance qu'opposa la capote. Néanmoins, il reçut une blessure grave au côté. Pour la seconde fois en 10 jours, il fut rapporté quasi mort chez la douairière éplorée. Ce second accident lui donna quelque défiance, et il pensa, mais vaguement, à Ferragus et à Madame Jules. Pour éclaircir ses soupçons, il garda l'essieu brisé dans sa chambre et manda son carrossier. Le carrossier vint, regarda l'essieu, la cassure, et prouva 2 choses à Monsieur de Maulincourt. D'abord, l'essieu ne sortait pas de ses ateliers. Il n'en fournissait aucun qu'il n'écrava grossièrement les initiales de son nom. Et il ne pouvait pas s'expliquer par quel moyen cet essieu avait été substitué à l'autre. Puis la cassure de cet essieu suspect avait été ménagée par une chambre, espèce de creuse intérieure, par des soufflures et par des pailles très habilement pratiquées. « Eh, monsieur le baron, il a fallu être joliment malin, dit-il, pour arranger un essieu sur ce modèle. On jurerait que c'est naturel. » Monsieur de Maulincourt pria son carrossier de ne rien dire de cette aventure, et se tint pour dûment averti. Ces deux tentatives d'assassinat étaient étourdies avec une adresse qui dénotait l'inimitié de gens supérieurs. « C'est une guerre à mort, » se dit-il en s'agitant dans son lit. « Une guerre de sauvages ? Une guerre de surprises, d'embuscades, de traîtrises ?» déclarée au nom de Madame Jules. « À quel homme appartient-elle donc ? De quel pouvoir dispose ce Ferragus ? » Enfin, monsieur de Maulincourt, quoique brave et militaire, ne put s'empêcher de frémir. Au milieu de toutes les pensées qui l'assaillirent, il y en eut une contre laquelle il se trouva sans défense et sans courage. Le poison ne serait-il pas bientôt employé par ses ennemis secrets ? Aussitôt, dominé par des craintes que sa faiblesse momentanée, que la diète et la fièvre augmentaient encore, il fit venir une vieille femme attachée depuis longtemps à sa grand-mère. Une femme qui avait pour lui un de ses sentiments admis maternels, le sublime du commun. Sans s'ouvrir entièrement à elle, il la chargea d'acheter secrètement, et chaque jour, en des endroits différents, les aliments qui lui étaient nécessaires, en lui recommandant de les mettre sous clé, et de les lui apporter elle-même, sans permettre à qui que ce fût de s'en approcher quand elle les lui servirait. Enfin, il prit les précautions les plus minutieuses pour se garantir de ce genre de mort. Il se trouvait au lit, seul, malade. Il pouvait donc penser à loisir à sa propre défense. Le seul besoin assez clairvoyant pour permettre à l'égoïsme humain de ne rien oublier. Mais le malheureux malade avait empoisonné sa vie par la crainte, et malgré lui, le soupçon teignit toutes les heures de ses sombres nuances. Cependant, ces deux leçons d'assassinat lui apprirent une des vertus les plus nécessaires aux hommes politiques, et il comprit la haute dissimulation dont il faut user dans le jeu des grands intérêts de la vie. Taire son secret n'est rien, mais se taire à l'avance, mais savoir oublier un fait pendant 30 ans s'il le faut à la manière d'Ali Pacha, pour assurer une vengeance méditée pendant 30 ans, est une belle étude en un pays où il y a peu d'hommes qui sachent dissimuler pendant 30 jours. Monsieur de Maulincourt ne vivait plus que par Madame Jules. Il était perpétuellement occupé à examiner sérieusement les moyens qu'il pouvait employer dans cette lutte inconnue pour triompher d'adversaires inconnus. Sa passion anonyme pour cette femme grandissait de tous ses obstacles. Madame Jules était toujours debout, au milieu de ses pensées et de son cœur, plus attrayante alors par ses vices présumés que par les vertus certaines qui en avaient fait pour lui son idole. Le malade, voulant reconnaître les positions de l'ennemi, crut pouvoir sans danger initier le vieux vidame au secret de sa situation. Le commandeur aimait Auguste comme un père aime les enfants de sa femme. Il était fin, adroit, il avait un esprit diplomatique. Il vint donc écouter le baron, hocha la tête, et tous deux tinrent conseil. Le bon vidame ne partagea pas la confiance de son jeune ami, quand Auguste lui dit qu'au temps où il vivait, la police et le pouvoir étaient à même de connaître tous les mystères, et que, s'il fallait absolument y recourir, il trouverait en eux de puissants auxiliaires. Le vieillard lui répondit gravement, « La police, mon cher enfant, est ce qu'il y a de plus inhabile au monde, et le pouvoir ce qu'il y a de plus faible dans les questions individuelles. Ni la police ni le pouvoir ne savent lire au fond des cœurs. Ce qu'on doit raisonnablement leur demander, c'est de rechercher les causes d'un fait. Or, le pouvoir et la police sont éminemment impropres à ce métier. Ils manquent essentiellement de cet intérêt personnel qui révèle tout à celui qui a besoin de tout savoir. Aucune puissance humaine ne peut empêcher un assassin ou un empoisonneur d'arriver soit au cœur d'un prince, soit à l'estomac d'un honnête homme. Les passions font toute la police. » Le commandeur conseilla fortement au baron de s'en aller en Italie. D'Italie en Grèce. De Grèce en Syrie, de Syrie en Asie, et de ne revenir qu'après avoir convaincu ses ennemis secrets de son repentir, et de faire ainsi tacitement sa paix avec eux. Sinon, de rester dans son hôtel, et même dans sa chambre, où il pouvait se garantir des atteintes de ce Ferragus, et n'en sortir que pour l'écraser en toute sûreté. Il ne faut toucher à son ennemi que pour lui abattre la tête, lui dit-il gravement. Néanmoins, le vieillard promit à son favori d'employer tout ce que le ciel lui avait imparti d'astuces pour, sans compromettre personne, pousser des reconnaissances chez l'ennemi, en rendre bon compte et préparer la victoire. Le commandeur avait un vieux Figaro retiré, le plus malin singe qui jamais eût pris figure humaine. Jadis spirituel comme un diable, faisant tout son corps comme un forçat, alerte comme un voleur, fin comme une femme mais tombée dans la décadence du génie, faute d'occasion, depuis la nouvelle constitution de la société parisienne, qui a mis en réforme les valets de comédie. Ce scapin émérite était attaché à son maître comme à un être supérieur. Mais le rusé vidame ajoutait chaque année au gage de son ancien prévôt de galanterie une assez forte somme, attention qui en corroborait l'amitié naturelle par les liens de l'intérêt, et valait au vieillard des soins que la maîtresse la plus aimante n'eût pas inventés pour son ami malade. Ce fut cette perle des vieux valets de théâtre, débris du dernier siècle, ministre incorruptible, faute de passions à satisfaire, auquel se fièrent le commandeur et monsieur de Maulincourt. Monsieur le baron gâterait tout, dit ce grand homme en livrée appelé au conseil. Que monsieur mange, boive et dorme tranquillement. Je prends tout sur moi. En effet, 8 jours après la conférence, au moment où monsieur de Maulincourt, parfaitement remis de son indisposition, déjeunait avec sa grand-mère et lui dame, Justin entra pour faire son rapport. Puis, avec cette fausse modestie qu'affectent les gens de talent, il dit, lorsque la douairière fut rentrée dans ses appartements, « Ferragus n'est pas le nom de l'ennemi que poursuit monsieur le baron. Cet homme, ce diable, s'appelle Gratien, Henri, Victor, Jean-Joseph Bourignard. » Le sieur Gratien Bourignard est un ancien entrepreneur de bâtiments, jadis fort riche, et surtout l'un des plus jolis garçons de Paris, un Lovelace, capable de séduire Grandison. Ici s'arrêtent mes renseignements. Il a été simple ouvrier, et les compagnons de l'ordre des dévorants l'ont, dans le temps, élu pour chef, sous le nom de Ferragus XXIII. La police devrait savoir cela, si la police était instituée pour savoir quelque chose. Cet homme a déménagé, ne demeure plus rue des Vieux Augustins, et perche maintenant rue Joclet. Madame Jules Desmarais va le voir souvent. Assez souvent, son mari, en allant à la bourse, l'amène rue Vivienne, où elle mène son mari à la bourse. Monsieur le vidame connaît trop bien ces choses-là pour exiger que je lui dise si c'est le mari qui mène sa femme ou la femme qui mène son mari. Mais Madame Jules est si jolie que je parierais pour elle. Tout cela est du dernier positif. Mon Bourignard joue souvent au numéro 129. C'est, sous votre respect, monsieur, un farceur qui aime les femmes et qui vous a ses petites allures comme un homme de condition. Du reste, il gagne souvent, se déguise comme un acteur, se grime comme il veut, et vous a la vie la plus originale du monde. Je ne doute pas qu'il n'ait plusieurs domiciles, car la plupart du temps, il échappe à ce que monsieur le commandeur nomme les investigations parlementaires. Si monsieur le désire, on peut néanmoins s'en défaire honorablement, eu égard à ses habitudes. Il est toujours facile de se débarrasser d'un homme qui aime les femmes. Néanmoins, ce capitaliste parle de déménager encore. Maintenant, monsieur le vidame et monsieur le baron ont-ils quelque chose à me commander ? Justin, je suis content de toi. Ne va pas plus loin sans ordre. Mais veille ici à tout, de manière que monsieur le baron n'ait rien à craindre. Mon cher enfant, reprit le vidame, reprends ta vie et oublie madame Jules. Non, non, dit Auguste, je ne céderai pas la place à Gratien Bourignard. Je veux la voir pieds et poings liés, et madame Jules aussi. Le soir, le baron Auguste de Maulincourt, récemment promu à un grade supérieur dans la compagnie des gardes du corps, alla au bal, à l'Élysée Bourbon, chez madame la duchesse de Berry. Là, certes, il ne pouvait y avoir aucun danger à redouter pour lui. Le baron de Maulincourt en sortit néanmoins avec une affaire d'honneur à vider, une affaire qu'il était impossible d'arranger. Son adversaire, le marquis de Ronquerolles, avait les plus fortes raisons de se plaindre d'Auguste, et Auguste y avait donné lieu par son ancienne liaison avec la sœur de monsieur de Ronquerolles, la comtesse de Cerisy. Cette dame, qui n'aimait pas la sensiblerie allemande, n'en était que plus exigeante dans les moindres détails de son costume de prude. Par une de ces fatalités inexplicables, Auguste fit une innocente plaisanterie que madame de Cerisy prit fort mal, et de laquelle son frère s'offensa. L'explication eut lieu dans un coin, à voix basse. En gens de bonne compagnie, les deux adversaires ne firent point de bruit. Le lendemain seulement, la société du faubourg Saint-Honoré, du faubourg Saint-Germain et le château s'entretinrent de cette aventure. Madame de Cerisy fut chaudement défendue, et l'on donna tous les torts à Maulincourt. D'augustes personnages intervinrent. Des témoins de la plus haute distinction furent imposés à messieurs de Maulincourt et de Ronquerolles. Et toutes les précautions furent prises sur le terrain pour qu'il n'y eût personne de tué. Quand Auguste se trouva devant son adversaire, homme de plaisir, auquel personne ne refusait des sentiments d'honneur, il ne put voir en lui l'instrument de Ferragus, chef des dévorants. Mais il eut une secrète envie d'obéir à d'inexplicables pressentiments en questionnant le marquis. « Messieurs, dit-il aux témoins, je ne refuse certes pas d'essuyer le feu de M. de Ronquerolles, mais auparavant, je déclare que j'ai eu tort. Je lui fais les excuses qu'il exigera de moi, publiquement même s'il le désire. Parce que, quand il s'agit d'une femme, rien ne saurait, je crois, déshonorer un galant homme. J'en appelle donc à sa raison et à sa générosité. N'y a-t-il pas un peu de niaiserie à se battre quand le bon droit peut succomber ? Monsieur de Ronquerolles n'admit pas cette façon de finir l'affaire. Et alors le baron, devenu plus soupçonneux, s'approcha de son adversaire. « Eh bien, monsieur le marquis, lui dit-il, engagez-moi, devant ces messieurs, votre foi de gentilhomme de n'apporter dans cette rencontre aucune raison de vengeance autre que celle dont il s'agit publiquement. Monsieur, ce n'est pas une question à me faire. » Et monsieur de Ronquerolles alla se mettre à sa place. Il était convenu, par avance, que les deux adversaires se contenteraient d'échanger un coup de pistolet. Monsieur de Ronquerolles, malgré la distance déterminée qui semblait devoir rendre la mort de monsieur de Maulincourt très problématique, pour ne pas dire impossible, fit tomber le baron. La balle lui traversa les côtes, à deux doigts au-dessous du cœur, mais heureusement sans de fortes lésions. « Vous visez trop bien, monsieur, dit l'officier aux gardes, pour avoir voulu venger des passions mortes. Monsieur de Ronquerolles crut Auguste mort, et ne put retenir un sourire sardonique en entendant ces paroles. La sœur de Jules César, monsieur, ne doit pas être soupçonnée. Toujours, madame Jules, répondit Auguste. Il s'évanouit, sans pouvoir achever une mordante plaisanterie qui expira sur ses lèvres. Mais quoiqu'il perdît beaucoup de sang, sa blessure n'était pas dangereuse. Après une quinzaine de jours pendant lesquels la douairière et le vidame lui prodiguèrent ses soins de vieillard, soins dont une longue expérience de la vie donne seule le secret, un matin, sa grand-mère lui porta de rudes coups. Elle lui révéla les mortelles inquiétudes auxquelles étaient livrés ses vieux ces derniers jours. Elle avait reçu une lettre signée d'un F, dans laquelle l'histoire de l'espionnage auquel s'était abaissé son petit-fils lui était, de point en point, racontée. Dans cette lettre, des actions indignes d'un honnête homme étaient reprochées à monsieur de Maulincourt. Il avait, disait-on, mis une vieille femme rue de Ménard, sur la place de fiacre qui s'y trouve. Vieille espionne occupée en apparence à vendre au cocher l'eau de ses tonneaux, mais en réalité chargée d'épier les démarches de madame Jules Desmarets. Il avait espionné l'homme le plus inoffensif du monde pour en pénétrer tous les secrets. Quand de ces secrets dépendait la vie ou la mort de trois personnes. Lui seul avait voulu la lutte impitoyable dans laquelle, déjà blessé trois fois, il succomberait inévitablement, parce que sa mort avait été jurée et serait sollicitée par tous les moyens humains. Monsieur de Maulincourt ne pourrait même plus éviter son sort en promettant de respecter la vie mystérieuse de ces trois personnes, parce qu'il était impossible de croire à la parole d'un gentilhomme capable de tomber aussi bas que des agents de police. Et pourquoi ? Pour troubler, sans raison, la vie d'une femme innocente et d'un vieillard respectable. La lettre ne fut rien pour Auguste, en comparaison des tendres reproches que lui fit essuyer la baronne de Maulincourt. Manquer de respect et de confiance envers une femme ? L'espionner sans en avoir le droit ? Et devait-on espionner la femme dont on est aimé ? Ce fut un tort, une de ces excellentes raisons qui ne prouvent jamais rien, et qui mirent, pour la première fois de sa vie, le jeune baron dans une des grandes colères humaines où germent, d'où sortent les actions les plus capitales de la vie. Puisque ce duel est un duel à mort, je dois tuer mon ennemi par tous les moyens que je puis avoir à ma disposition. Aussitôt le commandeur alla trouver, de la part de monsieur de Maulincourt, le chef de la police particulière de Paris. Et, sans mêler ni le nom ni la personne de madame Jules au récit de cette aventure, quoiqu'elle en fût le nœud secret, il lui fit part des craintes que donnait à la famille de Maulincourt le personnage inconnu assez osé pour jurer la perte d'un officier aux gardes en face des lois et de la police. L'homme de la police leva de surprise ses lunettes vertes, se moucha plusieurs fois, et offrit du tabac au vidame, qui, par dignité, prétendait ne pas user de tabac, quoiqu'il en eût le nez barbouillé. Puis le sous-chef prit ses notes et promit que, Vidocq et ses limiers aidant, il rendrait sous peu de jours bon compte à la famille Maulincourt de cet ennemi, disant qu'il n'y avait pas de mystère pour la police de Paris. Quelques jours après, le chef vint voir M. le vidame à l'hôtel de Maulincourt et trouva le jeune baron parfaitement remis de sa dernière blessure. Alors, il leur fit en style administratif ses remerciements des indications qu'il avait eu la bonté de lui donner, en lui apprenant que ce Bourignard était un homme condamné à 20 ans de travaux forcés, mais miraculeusement échappé pendant le transport de la chaîne de Bicêtre à Toulon. Depuis 13 ans, la police avait infructueusement essayé de le reprendre, après avoir su qu'il était venu fort insouciamment habiter Paris, où il avait évité les recherches les plus actives, quoiqu'il fût constamment mêlé à beaucoup d'intrigues ténébreuses. Bref, cet homme, dont la vie offrait les particularités les plus curieuses, allait être certainement saisi à l'un de ses domiciles et livré à la justice. Le bureaucrate termina son rapport officieux en disant à M. de Maulincourt que s'il attachait assez d'importance à cette affaire pour être témoin de la capture de Bourignard, il pouvait venir le lendemain, à 8 heures du matin, rue Sainte-Foy, dans une maison dont il lui donna le numéro. M. de Maulincourt se dispensa d'aller chercher cette certitude, s'en fiant, avec le saint respect que la police inspire à Paris, sur la diligence de l'administration. 3 jours après, n'ayant rien lu dans le journal sur cette arrestation, qui cependant devait fournir matière à quelque article curieux, M. de Maulincourt conçut des inquiétudes, que dissipa la lettre suivante. Monsieur le baron, j'ai l'honneur de vous annoncer que vous ne devez plus conserver aucune crainte touchant l'affaire dont il est question. Le nommé Gratien Bourignard, dit Ferragus, est décédé hier, en son domicile, rue Joclet numéro 7. Les soupçons que nous devions concevoir sur son identité ont été pleinement détruits par les faits. Le médecin de la préfecture de police a été par nous adjoint à celui de la mairie, et le chef de la police de sûreté a fait toutes les vérifications nécessaires pour parvenir à une pleine certitude. La moralité des témoins qui ont signé l'acte de décès, et les attestations de ceux qui ont soigné le dit Bourignard dans ses derniers moments, entre autres celles du respectable vicaire de l'église Bonne Nouvelle, auquel il a fait ses aveux, au tribunal de la pénitence, car il est mort en chrétien, ne nous ont pas permis de conserver les moindres doutes. Agréé, monsieur le baron, etc. Monsieur de Maulincourt, la douairière et le vidame respirèrent avec un plaisir indicible. La bonne femme embrassa son petit-fils, en laissant échapper une larme, et le quitta pour remercier Dieu par une prière. La chère douairière, qui faisait une neuvaine pour le salut d'Auguste, se crut exaucée. « Eh bien, dit le commandeur, tu peux maintenant te rendre au bal dont tu me parlais. Je n'ai plus d'objection à t'opposer. » Monsieur de Maulincourt fut d'autant plus empressé d'aller à ce bal que Madame Jules devait s'y trouver. Cette fête était donnée par le préfet de la Seine, chez lequel les deux sociétés de Paris se rencontraient comme sur un terrain neutre. Auguste parcourut le salon sans voir la femme qui exerçait sur sa vie une si grande influence. Il entra dans un boudoir encore désert, où des tables de jeu attendaient les joueurs, et elle s'assit sur un divan, livrée aux pensées les plus contradictoires sur Madame Jules. Un homme prit alors le jeune officier par le bras, et le baron resta stupéfait en voyant le pauvre de la rue Coquillère. Le Ferragus d'Ida, l'habitant de la rue Soly, le Bourignard de Justin, le forçat de la police, le mort de la veille. « Monsieur, pas un cri, pas un mot, » dit Bourignard dont il reconnut la voix, mais qui certes eût semblé méconnaissable à tout autre. Il était mis élégamment, portait les insignes de l'ordre de la Toison d'Or et une plaque à son habit. « Messieurs, » reprit-il d'une voix qui sifflait comme celle d'une hyène, « vous autorisez toutes mes tentatives en mettant de votre côté la police. Vous périrez, monsieur, il le faut. Aimez-vous Madame Jules? Étiez-vous aimé d'elle? De quel droit vouliez-vous troubler son repos, noircir sa vertu ?» Quelqu'un survint. Ferragus se leva pour sortir. « Connaissez-vous cet homme ?» demanda M. de Maulincourt en saisissant Ferragus au collet. Mais Ferragus se dégagea lestement, prit M. de Maulincourt par les cheveux et lui secoua railleusement la tête à plusieurs reprises. « Faut-il donc absolument du plomb pour la rendre sage ? » dit-il. « Non, pas personnellement, monsieur, » répondit de Marsay, le témoin de cette scène. « Mais je sais que monsieur est monsieur de Funcal, portugais fort riche. » Monsieur de Funcal avait disparu. Le baron se mit à sa poursuite sans pouvoir le rejoindre, et quand il arriva sous le péristyle, il vit, dans un brillant équipage, Ferragus qui ricanait en le regardant, et partait au grand trot. « Monsieur de grâce !» dit Auguste en entrant dans le salon et en s'adressant à de Marsay qui se trouvait être de sa connaissance. « Où monsieur de Funcal demeure-t-il »«
Je l'ignore, mais on vous le dira sans doute ici. »
Le baron, ayant questionné le préfet, apprit que le comte de Funcal demeurait à l'ambassade de Portugal. En ce moment où il croyait encore sentir les doigts glacés de Ferragus dans ses cheveux, il vit Madame Jules dans tout l'éclat de sa beauté, fraîche, gracieuse, naïve, resplendissant de cette sainteté féminine dont il s'était épris. Cette créature, infernale pour lui, n'excitait plus chez Auguste que de la haine. Et cette haine déborda sanglante, terrible dans ses regards. Il épia le moment de lui parler sans être entendu de personne, et lui dit « Madame, voici déjà 3 fois que vos bravis me manquent. »«
Que voulez-vous dire, monsieur ? »
répondit-elle en rougissant. « Je sais qu'il vous est arrivé plusieurs accidents fâcheux, auxquels j'ai pris beaucoup de part.
Mais comment puis-je y être pour quelque chose ?
Vous savez donc qu'il y a des bravis dirigés contre moi par l'homme de la rue Soli ?
Monsieur !
Madame, maintenant je ne serai pas seul à vous demander compte, non pas de mon bonheur, mais de mon sang. » En ce moment, Jules Desmarets s'approcha. «
Que dites-vous donc à ma femme, monsieur ?
Venez vous en enquérir chez moi, si vous en êtes curieux, monsieur. » Et Molincourt sortit, laissant Madame Jules pâle et presque en défaillance.